VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du mardi 11 janvier 2022. En direct de Washington, Idrissa Seboulia
et Michel Joseph.
Pour commencer, les titres.
Dans quelques instants, le journal de la CAN avec Emmanuel Jules Tappe.
Au Mali, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, dit rester ouvert au dialogue avec la CDAO après les sanctions prises par l'organisation contre son pays.
Au Soudan, l'ONU lance des discussions indiscrètes avec les parties civiles, avec les parties civiles et militaires pour tenter de résoudre la crise déclenchée par le coup d'État du 25 octobre.
Le président américain Joe Biden dit au premier ministre Abiy Ahmed sa préoccupation sur la situation humanitaire en Éthiopie.
Pas d'avancée sur l'Ukraine, mais Washington et Moscou veulent poursuivre le dialogue.
Des chirurgiens américains ont greffé avec succès le cœur d'un porc sur un humain. Voilà quelques-uns des titres de cette édition.
Le Sénégal, la Guinée, le Maroc et le Gabon sont sortis vainqueurs des matchs disputés hier dans les poules B et C de la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputent au Cameroun. De Yaoundé, le journal de la CAN avec notre correspondant Emmanuel Jules Tappe.
Bonjour, bonjour à tous. 1-0, c'est le score qui a sanctionné tous les matchs de la journée d'hier. Sur un pénalty transformé par Sadio Mané dans les arrêts de jeu, le Sénégal est venu à bout des Warriors du Zimbabwe. Le capitaine des Lions de la Teranga, Sadio Mané, au micro d'Amedine Si.
Je vous avais dit que je vais laisser les pénaltys pour le bien de l'équipe et je pense que c'était normal. Et du coup, je suis retourné à un club et j'ai tellement bien travaillé. Et après, on ne sait jamais avec les pénaltys, mais en tout cas, ce qui est sûr, il faut faire l'effort pour récolter le fruit. Donc, ça a toujours été mon cas. Je pense qu'en premier mi-temps, on a dominé le match, on s'est créé pas mal de chances. Et malheureusement, on les avait pas concrétisés et donc, ça nous a un peu compliqué la tâche. Mais on a été mentalement fort et on a poussé jusqu'au bout et on n'a rien lâché. Du coup, on s'est battu et au final, on a eu un penalty, on a marqué. Je pense que dans l'ensemble, on méritait de gagner ce match.
Toujours dans la poule B, Issiaka Sylla, à la 35e minute de jeu, a donné à la Guinée-Conakry l'unique but du match face au Malawi. À Yaoundé, le Maroc, privé de 6 joueurs cadres, blessés ou testés positifs au Covid-19, a eu raison du Ghana. Sofiane Boufal, buteur à la 83e minute, a délivré son équipe. L'objectif a été atteint d'après l'attaquant marocain.
Je pense qu'on est plutôt bien rentré dans notre match. On n'a pas été mis en danger, à part en deuxième mi-temps où ils ont une grosse occasion. Mais sinon, voilà, on avait plus la main mise sur le match. C'est très bien que les matchs en Coupe d'Afrique sont très compliqués. On l'a bien vu avec le Sénégal. On avait comme objectif de remporter ce match-là, ce qui est pour nous est primordial. Et ce match-là va nous donner de la confiance justement pour les deux prochains matchs.
Dans la confrontation entre le Gabon et les îles Comores, les Panthères du Gabon ont assuré l'essentiel sur une réalisation d'Aaron Boupenza. À Libreville, nous avons Jules Valentin Ngoui pour son coup de sifflet qui tire les leçons des matchs disputés jusqu'ici.
Une cérémonie impressionnante dans le stade monumental d'Olombe, c'est le cadre grandiose dans lequel s'est ouverte la 33e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec au menu un alléchant Cameroun-Burkina Faso où l'enjeu a fini par tuer le jeu, les étalons ayant choisi de laisser au vestiaire leur habituelle production technique au profit d'une bataille physique, un exercice qui sied mieux à leurs adversaires du jour. En fin de compte, le Cameroun fait l'essentiel en gagnant son match d'ouverture, ce qui oblige les étalons à élever leur niveau de jeu dès la prochaine sortie face aux requins du Cap-Vert, vainqueurs eux de l'Éthiopie dans le match décisif des outsiders de la poule. Le Cameroun n'est pas le seul favori désigné à avoir souffert en cette première journée. Son rival à distance, le Sénégal, englué face au Zimbabwe, dans une opposition de style qui a failli tourner court, ce sort de justesse du match piège parfait que lui ont tendu les guerriers d'Harare à la faveur d'un pénalty tardif, encore une affaire de pénalty. L'accouchement dans la douleur de cette tête de série amener les prochains acteurs à faire preuve de plus de modestie et de prudence. Ce n'est pas cette fois encore qu'il y aura des scores fleuves, puisque le Maroc surprend le Ghana en fin de rencontre et que c'est le même service minimum de 1-0 pour la Guinée devant le Malawi. En fin de compte, c'est peut-être loin des considérations strictement sportives que le sort de ce rendez-vous camerounais va se jouer. En dehors des caprices du Covid qui peuvent à tout moment rabattre les cartes, une autre donnée, celle de l'acclimatation, s'est visiblement invitée lors de cette première journée, notamment sur les sites de Yaoundé et de Douala, où la canicule tropicale peut émousser les meilleurs avant la deuxième phase de la compétition. À ce jeu, heureux Sénégal, qui peut continuer à évoluer sans dégâts dans la douceur des hautes montagnes de Bafoussam, contrairement à ses rivaux. La suite le confirmera ou l'infirmera. À bientôt.
Ce mardi, le champion en titre de l'Algérie, logé dans la poule E, fait son entrée dans la compétition au stade de Japoma à Douala contre la Sierra Leone. On joue également dans la poule D à Garoua avec une affiche de rêve entre le Nigeria et l'Égypte, suivie de Soudan, Guinée-Bissau. C'est terminé ce matin pour la page spéciale CAN. Amédine Si, Emmanuel Jumtap Yaoundé, VOA Afrique.
Merci Jules. Dans le reste de l'actualité, 24 heures après les sanctions prises par l'UEMOA et la CEDEAO contre le Mali, le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire. Il était question de se pencher sur ces sanctions et de proposer aux Maliens les moyens pour y faire face. De Bamako, notre correspondant Mohamed Danioko fait le point.
Après avoir jugé que les mesures prises par l'UEMOA et la CEDEAO contre le Mali étaient extrêmes, le gouvernement a appelé l'ensemble de la population et de la diaspora à une grande mobilisation le vendredi 14 janvier prochain sur toute l'étendue du territoire national. Il a demandé aux autorités religieuses et coutumières d'organiser des séances de prière. Il a aussi décidé de l'élaboration d'un plan de riposte pour, dit-il, sauvegarder la souveraineté du Mali et préserver l'intégrité du territoire. Dans la même lancée, il a félicité les forces armées et de sécurité pour les résultats engrangés dans la lutte contre le terrorisme. Enfin, le gouvernement a tenu à rassurer que toutes les dispositions seront prises pour faire face aux effets des mesures édictées par la CEDEAO et l'UEMOA. Mohamed Danioko, Bamako, pour VOA Afrique.
Ajoutons que le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a dit lundi rester ouvert au dialogue avec la CEDEAO, tout en appelant ses compatriotes au calme et à la résilience, même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions. Le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation, a-t-il dit dans un discours diffusé à la télévision publique.
Le colonel Goïta n'a pas annoncé de nouvelles mesures de riposte, mais n'a pas non plus fait de nouvelles propositions pour sortir de la crise politique. Je vous demande de rester calme et serein, car nous avons fait le choix d'être sincères afin de prendre notre destin en main, en forgeant notre propre voie. La CEDEAO et l'UEMOA se sont assumés, nous en ferons autant, a-t-il dit.
L'émissaire de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, a annoncé le lancement lundi des discussions indirectes avec les parties civiles et militaires soudanaises pour tenter de résoudre la crise déclenchée par le coup d'État du 25 octobre. Le Soudan est plongé dans une crise politique depuis le putsch mené par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, ayant fait dérailler la transition vers un pouvoir entièrement civil lancé après la chute de Omar al-Béchir en 2019 au pouvoir durant 3 décennies.
Le président américain Joe Biden a fait part lundi au premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, de sa préoccupation sur la situation humanitaire dans le pays après de récentes frappes aériennes. M. Biden a toutefois salué lors de cet entretien téléphonique la libération de plusieurs prisonniers politiques. Le point avec Rosine Mounezero.
Le président américain a exprimé sa préoccupation que les hostilités, y compris les récentes frappes aériennes, continuent à causer des morts et des souffrances civiles, selon le communiqué de la Maison-Blanche. Joe Biden a par ailleurs répété que les États-Unis sont engagés à travailler aux côtés de l'Union africaine et de partenaires régionaux pour aider les Éthiopiens à résoudre le conflit de manière pacifique. Il a également félicité Abiy Ahmed pour la libération récente de plusieurs prisonniers politiques. Les deux hommes ont évoqué les moyens d'accélérer le dialogue en vue d'un cessez-le-feu, la nécessité d'améliorer rapidement l'accès à l'aide humanitaire à travers l'Éthiopie et le besoin de répondre aux préoccupations de tous les Éthiopiens en matière de droits humains. Les organisations humanitaires ont suspendu leurs activités autour d'un camp de déplacés dans la région du Tigré après une frappe aérienne meurtrière.
En Angola, les chauffeurs de taxi et minibus privés de transport en commun ont tenté d'incendier hier à Luanda des locaux du parti au pouvoir. Les détails avec Ginny Kapungu-Villa.
Des milliers de chauffeurs ont garé leurs véhicules le long des rues de Luanda pour protester contre les conditions de travail et le harcèlement de la police. Dans le quartier de Benfica, des manifestants ont tenté de mettre le feu aux bureaux locaux du mouvement populaire de libération de l'Angola, au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Le feu ne s'est pas propagé, mais un bus de l'opérateur public a été incendié. Des acteurs bien identifiés sont derrière cette action, a réagi sans citer de nom Bento Bento, secrétaire du MPLA. La police affirme avoir arrêté 17 personnes. La grève est contre les discriminations quotidiennes de la part de la police et contre le décret limitant le nombre de passagers dans les véhicules, selon Francisco Paciente, patron de la Nouvelle Alliance de l'Association des chauffeurs de taxi. La plupart des quelques 6 millions d'habitants de Luanda dépendent de quelques 30 000 taxis collectifs ou minibus privés pour leurs déplacements quotidiens. Une présidentielle est prévue en août dans le pays riche en pétrole et diamants, mais dont une grande partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et la Russie évoquent la possibilité de limites réciproques aux missiles et aux manœuvres militaires en Europe. Mais la secrétaire d'État adjointe américaine, Wendy Sherman, a réitéré les avertissements occidentaux en cas d'invasion de l'Ukraine, Abdelrahman Dia.
À l'issue de discussions à Genève avec son homologue russe, Wendy Sherman a indiqué que la balle est dans le camp de la Russie pour favoriser une désescalade et ouvrir la voie à des solutions diplomatiques. Elle a expliqué que le Kremlin peut prouver qu'il n'a pas l'intention d'envahir le pays voisin en renvoyant dans leurs casernes les soldats amassés à la frontière ces dernières semaines. Priée de dire si Sergueï Ryabkov avait donné des gages en ce sens, elle a répondu « Je ne pense pas que nous connaissions la réponse à cela ». Mais juste après, Sergueï Ryabkov a déclaré que la Russie n'avait pas l'intention d'attaquer l'Ukraine. « Nous avons expliqué aux collègues que nous n'avons pas de plan, pas l'intention d'attaquer l'Ukraine », a dit le négociateur russe. Les discussions de lundi à Genève lancent une semaine diplomatique intense. Une réunion OTAN-Russie est prévue mercredi à Bruxelles avant une rencontre jeudi à Vienne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
Les Nations Unies ont demandé un montant record de 5 milliards de dollars pour financer l'aide à l'Afghanistan cette année et assurer un avenir à ce pays au bord d'une catastrophe humanitaire. Le nouveau plan de l'ONU nécessite 4,4 milliards de dollars des pays donateurs pour financer les besoins humanitaires cette année. Le plus important montant jamais réclamé pour un seul pays, souligne un communiqué de l'organisation qui précise que 623 millions de dollars viennent s'y ajouter pour venir en aide aux millions d'Afghans réfugiés dans les pays voisins.
Des chirurgiens américains ont réussi à greffer sur un patient un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. Une première mondiale a annoncé lundi l'école de médecine de l'Université du Maryland. L'opération a été menée vendredi et a permis de montrer pour la première fois qu'un cœur d'animal pouvait continuer à fonctionner à l'intérieur d'un humain sans rejet immédiat, a expliqué l'institution dans un communiqué.
L'effigie de la poétesse et activiste africaine-américaine Maya Angelou, 1928-2014, figure sur une nouvelle génération de quarters, les célèbres pièces de 25 cents américaines, dont les premiers exemplaires ont été frappés par la monnaie des États-Unis et vont être prochainement
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons à nos dossiers du jour. Suite aux sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali, les autorités maliennes n'ont pas tardé à riposter. Dès dimanche soir, le ministre de l'administration territoriale, le porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga, est sorti pour regretter et rejeter ces sanctions et annoncer le rappel des ambassadeurs maliens des autres pays de la CEDEAO. Les Maliens ont aussi réagi aux décisions de l'organisation ouest-africaine. Le reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont pris de lourdes sanctions contre le Mali, allant de la fermeture des frontières aériennes et terrestres au gel des avoirs. Des sanctions jugées disproportionnées par nombre de citoyens.
Bah, moi, je pense que la CEDEAO est allée très très loin. Pour ces sanctions. Parce que vous savez, tout le monde connaît la situation du Mali aujourd'hui. L'insécurité est partout. Donc moi, je pense qu'au lieu que la CEDEAO aide le Mali vraiment pour recouvrir toute son insécurité ce soir, la CEDEAO prend des sanctions vraiment pour renforcer le Mali. Donc je pense que cette sanction-là, ça va renforcer l'union des Maliens.
La main lourde de la CEDEAO, titre le quotidien Info Matin. Messieurs les colonels, le pays est en feu, renchérit le quotidien Le Combat, place aux sanctions financières et économiques, boucle le biais hebdomadaire 22 septembre. Pour Omar Konaté, directeur de publication du journal La Preuve, ces sanctions de la CEDEAO étaient prévisibles.
Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali étaient prévisibles. Je pense même que l'organisation sous-régionale a été beaucoup clémente envers le Mali parce que on sent qu'elle n'a pas voulu prendre des sanctions contre nous, mais face à l'attitude de nos autorités de transition, elle était contrainte d'aller jusqu'à ce niveau.
Selon Ali Sako, opérateur économique, dont les opérations sont orientées vers le Sénégal, le Mali et la CEDEAO doivent faire des efforts pour trouver un terrain d'entente.
Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont bien dit que c'était des sanctions sévères contre le peuple du Mali. Mais bon, c'est Dieu seul qui sait comment cette sanction-là peut finir. Mais ce que nous demandons vraiment aux deux côtés de voir la chose vraiment pour que les Maliens puissent avoir la paix.
A noter que les autorités de la transition, par la voix du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a fait une sortie télévisée quelques heures après la publication des sanctions pour condamner et rejeter ces mêmes sanctions. A son tour, les autorités ont décidé de fermer les frontières et de rappeler les ambassadeurs du Mali établi dans les pays de la CEDEAO. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique.
Et au Mali, disons que au Sénégal maintenant, les ressortissants maliens ont exprimé leur colère face aux sanctions de la CEDEAO. Ils dénoncent vigoureusement, je cite, l'attitude de cette organisation sous-régionale qui ne se soucie pas de l'insécurité qui règne au Mali, en réclamant la tenue des élections en ce mois de février. Fin de citation. Quelques-unes de ces réactions recueillies par Nama Diarra, notre correspondant à Dakar.
Et je pense que la question qu'on doit se poser, d'abord, c'est la question de la sécurité. Parce que sans la sécurité, on ne parlera pas d'État, on ne parlera pas de souveraineté, on ne parlera pas d'élection, ni de la démocratie. Et aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Nous ne voulons pas d'élections bâclées.
Nous sommes stupéfaits de ce qui s'est passé hier, des sanctions à l'encontre du Mali. Oui, il y a un souci politique. Donc nous pensons que les soucis politiques doivent être réglés politiquement. Ce n'est pas en isolant déjà un pays qui est déjà dans le gouffre. Ça, c'est précipiter vraiment le chaos. Mais sachez une chose, le problème transfrontalier, là, en fait, transfrontalier, qu'on dit, c'est pas que le Mali. Aujourd'hui, s'il y a un souci, c'est tous les pays limitrophes du Mali qui vont ressentir.
Rappelons à la CEDEAO et à ses partenaires qu'on n'impose pas à un État souverain comment gouverner, ni institutionnaliser son appareil. Sanction est un acte criminel.
Aujourd'hui, nous sommes désolés des sanctions prises contre le Mali, des sanctions qui sont illégitimes et illégales envers un pays qui est fragile, un pays qui a le plus besoin de ses voisins, qui a le plus besoin de ses partenaires économiques. Et ce que nous réclamons, c'est de revoir les copies, c'est de revoir ces sanctions. Parce que sans dialogue, sans une bonne compréhension entre le Mali et ses institutions, et si le Mali se retire de ses institutions, et je pense que ça mettra en péril la vie de ces dernières. Et ce que nous voulons, c'est d'éviter ces cas, c'est toujours de revoir leurs copies si possible, et de nous asseoir sur la table de négociation en défendant les intérêts du peuple du Mali et du peuple de l'Afrique. C'est ce que nous souhaitons.
Vraiment, le changement de la CEDEAO, ça va beaucoup jouer sur notre économie, surtout nous qui travaillons dans le domaine transit, transport et du commerce international. Vraiment, ça va beaucoup jouer sur l'économie malienne parce que la plupart des marchandises maliennes passent par Dakar. Je profite sur votre antenne de lancer l'appel à la CEDEAO de suspendre cette sanction sur le Mali.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, escalade entre Bamako et la CEDEAO. Réunie en sommet dimanche, l'organisation régionale a imposé des sanctions supplémentaires très sévères au Mali après la publication d'un chronogramme qui pourrait permettre à la junte de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2026. Le gouvernement malien a réagi en fermant ses frontières à la CEDEAO et en dénonçant des mesures illégales et illégitimes. Quelles peuvent être les conséquences de cette montée de la tension entre le Mali et la CEDEAO? Comment parvenir à une désescalade? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Tchad, les autorités sanitaires en guerre contre les vendeurs des médicaments de la rue et les officines des pharmacies qui ne respectent pas les normes. Une opération de déguerpissement des points de vente de ces produits pharmaceutiques d'origine douteuse et des salles illégales de soins a démarré. Les détails avec André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
L'opération a commencé deux jours après la mise en garde du ministre de la Santé publique exigeant aux vendeurs illégaux de ces produits pharmaceutiques qui sont installés devant les hôpitaux et autres structures de santé de fermer boutique.
La vente illicite des produits pharmaceutiques n'est pas une bonne chose. Il va falloir qu'on réglemente ça.
Hissène Palé, Païma Kriyo est le coordonnateur de la police sanitaire.
On ne peut pas admettre que quelqu'un vienne à l'hôpital alors que les produits sont là à l'hôpital et les ordonnances sont envoyées dehors. On prend les produits de la rue qui est déjà frappé par la chaleur et on renvoie ça à l'intérieur pour encore donne autre maladie à nos concitoyens.
Les professionnels en la matière soutiennent cette opération qui, selon eux, permettra enfin de les rétablir dans leurs droits. Docteur Masna Raksala est le président de l'Ordre national des pharmaciens.
Nous, les pharmaciens, on ne se reconnaît plus dans la pharmacie. Vraiment, c'est un désordre total. Les pharmaciens font partie du personnel de la santé. Ils sont là pour garantir la sécurité des médicaments qui sont délivrés à la population. Donc, ces pharmaciens sont dans cette opération rien que pour la santé de la population et non autre chose.
Les auteurs de la vente de médicaments de la rue, dont la plupart sont des diplômés sans emploi, plaident leur sort.
On a des diplômes, mais par manque d'emploi, c'est pourquoi on s'est référé dans ces sens pour quand même ne serait-ce que survivre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir 1000 francs, mais au vu de cela, on les sauve.
L'État cherche à nous enterrer vivants. Puisque moi, j'ai fini depuis 2014, infirmier diplômé d'État. Et voilà, je suis là comme ça. J'ai déposé partout, rien. C'est pourquoi j'ai entrepris cette activité, mais prendre en charge et aussi ma famille.
Une veuve rencontrée dans le couloir d'un marché de la place avec un enfant sous les bras venait solliciter le service de ses praticiens surnommés. Docteur Tchoukou s'exprime au micro de VOA Afrique.
D'accord, ta pharmacie de Tchoukou, je l'ai d'accord.
Si le gouvernement ferme toutes les pharmacies par terre, nous allons tous mourir. Moi, je suis veuve et mon enfant que vous voyez est malade. Et c'est le docteur Tchoukou qui l'a sauvé. Mais ils vont fermer son coin. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de moyens pour amener mes enfants à l'hôpital. Que le gouvernement ait pitié de nous, le pauvre. On n'a pas droit à vivre dans ces pays.
Pour le président de l'Ordre national des pharmaciens, Dr Masna Araxala, ces jeunes ne peuvent pas prétendre gagner leur vie par une activité qui met en péril la santé de la population.
S'ils veulent le faire, il faut qu'ils respectent les textes de la République. Les textes disent clairement qu'il faut avoir une formation dans ce sens et détenir une autorisation délivrée par le ministère de la Santé s'ils veulent. Et ces populations qui se soignent auprès d'eux, ils ne le savent pas qu'ils sont en train de s'intoxiquer avec ces médicaments. On ne se rend pas compte, l'intoxication peut être aussi à long terme. Donc ces gens-là sont en train de faire plus du mal que du bien à la population.
Les autorités en charge de la santé publique rappellent que désormais la vente des produits et l'exercice de la profession pharmaceutique sans autorisation préalable sont répréhensibles par les textes relatifs à la pharmacie. André Kordouma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Enfin, un nouveau livre se penche sur la fuite des capitaux du continent africain, ceux qui en profitent et leurs facilitateurs. Deux professeurs d'économie ont mené une étude sur trois pays africains, l'Afrique du Sud, l'Angola et la Côte d'Ivoire, pour examiner le pillage des ressources africaines qui se poursuit sans relâche. Notre collègue Frédéric Koundé-Kidjé s'est entretenu avec le professeur Léonce Nikumana de l'Université Amherst dans le Massachusetts, co-auteur de ce livre.
Dans ton livre, ce qu'on a voulu, c'est d'aller plus en profondeur dans l'analyse du phénomène de la fuite des capitaux sur lequel on a travaillé, moi et Jim Bolt, et aller plus en détail au niveau des pays. Et on a choisi de travailler sur trois pays, l'Angola, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.
Et pourquoi le choix de ces trois pays?
On a choisi trois pays puisqu'on ne peut pas travailler sur tous les pays, mais on a choisi trois pays qui sont vraiment représentatifs du problème, parce qu'ils ont un volume de fuite de capitaux énorme, mais aussi ce sont des pays qui sont très riches en ressources naturelles, où le citoyen ordinaire n'en bénéficie pas, effectivement, à cause du problème de la fuite de capitaux.
Et brièvement, quel est le contenu, quel est le message? Qu'est-ce que vous avez découvert dans l'étude que vous avez faite?
Ce qu'on a découvert, c'est que, en fait, le phénomène de la fuite de capitaux est un phénomène très complexe, qui est orchestré par une collusion des agents aussi bien à l'intérieur des pays de source, les pays africains, que dans le monde international, dans l'économie internationale. C'est-à-dire, il y a les entrepreneurs et les politiciens au niveau des pays africains qui font en fait connivence avec des compagnies internationales qui sont dans l'exploitation des ressources naturelles et arrivent à signer des contrats minables qui en fait bénéficient aux entreprises et pas aux pays, dans le sens que ces entreprises payent très peu de taxes et aussi les recettes d'exportation ne se matérialisent pas dans l'augmentation des devises dans ces pays. Et vous trouvez que des pays, par exemple en Angola, en Côte d'Ivoire ou au Congo ou en Zambie, on n'a pas couvert ça, mais où des entreprises qui normalement sont chargées de gérer les ressources naturelles tombent en faillite. Comment est-ce qu'une entreprise qui gère le pétrole comme au Congo tombe en faillite alors que le Congo est un grand vendeur de produits de pétrole? C'est que cet argent va dans les poches des compagnies internationales, va dans les poches des dirigeants qui sont corrompus. Et aussi, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a un circuit, un réseau international qui facilite tout ça. En plus des compagnies internationales, multinationales, il y a les banques dans les pays développés. Il y a des compagnies de conseil, il y a les avocats qui conseillent ces entreprises, qui font la comptabilité de ces entreprises, de façon que ces entreprises, apparemment, ne font pas de revenus et de profits dans les pays africains. Ces profits sont enregistrés à l'extérieur, donc ce qui fait qu'ils ne paient pas de taxes.
Le professeur d'économie Léonce Nikumana de l'Université Amherst dans le Massachusetts. bien c'est avec Adèle que s'achève cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia et Michel Joseph, qui étaient également à la mise en onde de la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.